Et on y va ensemble, on parcourt les évangiles, et j'aimerais qu'on s'arrête dans l'évangile de Luc. Il est revenu à mon esprit pendant que je priais pour ces moments, cette parabole que Jésus donnera à ses disciples, et j'aimerais qu'on la relise ensemble. Donc Luc chapitre 18. Et le titre de mon message, c'est « Prier sans se lasser ». Prier sans se lasser. Quelqu'un dira « La prière, c'est la respiration de l'âme ». Quelqu'un qui a arrêté de respirer, qu'est-ce que ça veut dire ? Il est mort. Donc la prière, c'est preuve de vitalité, mais ça amène la vie aussi. C'est une preuve de vie, mais ça amène la vie. Donc, c'est quelque chose qui est important, me semble-t-il. Non ? Alors, on y va. Vous l'avez ? Luc, chapitre 18, et on va lire à partir du verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Et il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, ce juge refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Je fais une petite aparté là. Me casser la tête. C'est fort comme propos. Des fois, il y a des personnes dans notre entourage qui nous cassent la tête. Hein. Moi, je pense à mes enfants. On sait que nos enfants sont persévérants. Hein. Papa, je veux ceci. Papa, je veux cela. Papa, amène-moi ici. Amène-moi là. Et des fois, ils ont plus la suite dans les idées que nous. Hein. Alors, on ne leur dit pas, mais dit, oh là là, mais ils me cassent la tête. Et qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps ? On cède. Ça vaut le coup de persévérer. Ça vaut le coup de persévérer. Bon, on continue. Verset 6. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? Le contexte de cette parabole est bien sûr le chapitre 17, juste avant. Et dans ce chapitre 17, Jésus parle de sa seconde venue. Et en quelque sorte, le contexte de cette parabole, notamment, eh bien, c'est Jésus alerte ses disciples. Ses disciples, ils veulent savoir, les gens qui l'entourent veulent savoir, quand est-ce que tu vas revenir, quand est-ce que ton royaume va revenir. Ça vient dans les évangiles comme un leitmotiv. Il y a ce désir de savoir. Hein. Dans Actes chapitre 1er, on se rappelle, après la résurrection, quand Jésus donne la mission à ses disciples, quand il leur dit « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez une puissance », eh bien les disciples, au lieu d'être concentrés sur ce que le Seigneur est en train de leur dire, les disciples lui posent une autre question. Il lui dit, mais Seigneur, quand est-ce que tu vas revenir ? C'était à l'esprit des disciples. Et ici, dans ce partage que nous partageons ce matin, dans cette parabole avec le juge inique et cette veuve, eh bien, la toile de fond, c'est le retour du Seigneur. Et le but de mon partage ce matin, et ce qui est fortement sur mon cœur, c'est de vous encourager réellement à vous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est que Jésus revient. Et il faut que tu sois prêt. Jésus ne va pas tarder. Plus que jamais, il est à la porte. Et il faut que tu sois prêt. Et c'est ça l'essentiel. L'essentiel, excusez-moi, je vais peut-être vous choquer. Hein. L'essentiel, c'est pas ce que tu es en train de vivre. L'essentiel, c'est pas ta maladie. L'essentiel, c'est pas tes luttes et tes combats. Il y a plus que ça. L'ennemi va essayer de se servir de ça pour faire que tu fasses un focus et que ça occupe toute ta vie, pour que ça centralise ta foi. Comme on dit, que ça te gobe le cerveau. Ça occupe toutes tes pensées. Mais l'essentiel, c'est pas ça. L'essentiel, c'est d'être prêt. L'essentiel, c'est de continuer à se préparer. Oui ? Comment ? Comment ? Dans ce qui nous occupe ce matin, prie. Continue de prier. Prie sans te lasser. Prie de la bonne manière. Ne prie pas par habitude, ne prie pas parce que le pasteur te dit qu'il faut prier. Mais prie parce que c'est ta raison d'être. C'est la bonne santé pour ton âme. Et donc c'est un encouragement ce matin, pour peut-être pour quelqu'un, de continuer plus que jamais à ton chemin de prière, ta vie de prière. Regarde à cela. Alléluia. C'est le meilleur moyen d'être prêt. Donc tu prends ton planning, tu prends ton agenda et tu vérifies que dans ton occupation de vie, il y a un espace à la prière. Combien de fois on ne se fait pas avoir hein, pour ça ? La journée, elle passe. Seigneur, je n'ai pas pris le temps. La semaine, elle passe. Seigneur, je n'ai pas pris le temps. Pardon. Dans le déroulé de cette parabole, le final, c'est quoi ? Quand le Fils de l'homme va revenir, trouvera-t-il la foi ? Comment faire pour garder la foi fervente ? Comment faire pour rester en feu, en verre et malgré tout, quelles que soient les circonstances ? Comment ? Si nous ne prions pas. La prière est un principe fondamental pour nourrir notre foi. Alléluia. Et quand le Seigneur y pose cette question, trouvera-t-il la foi ? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de foi ? Je ne crois pas. Je crois que Jésus pose cette question en lançant un défi. Et il nous lance ce défi à chacun de nous. Il lance ce défi à l'église de Sainte-Agne. Trouvera-t-il la foi ? Est-ce qu'il y a ici, dans ce lieu, des hommes et des femmes qui sont centrés sur leur Jésus, envers et malgré tout ? Je ne regarde pas à droite, je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas au passé, mais je regarde à mon Jésus. Je veux être prêt. Le verset dit, il faut toujours prier et ne point se relâcher. J'ai regardé la signification dans le grec du mot relâcher. Ça veut dire persévérer à demander secours. Persévérer à demander secours. Se relâcher, pardon, la signification de se relâcher, c'est devenir faible, abandonner la lutte, ramollir. Quelqu'un qui est tout mou, c'est ça la signification de se relâcher. Qui a plus la, comment on dit ? Oui, l'agnac, la vista. Seigneur, donne-moi de ne pas me relâcher, hein, mais de toujours persévérer. Persévérer à demander secours. Alors je pose une question, où en es-tu mon ami, mon frère, ma sœur, dans ta vie de prière ? Que ce partage serve à nous encourager dans notre vie de prière. Alors on regarde un peu le texte, si vous voulez bien. Le premier point que je partage avec vous, c'est un petit peu ce focus sur cette veuve. Et ce premier point c'est, que j'ai intitulé, c'est « Cette femme a une détermination exemplaire ». Vous ne trouvez pas ? Elle a une détermination exemplaire. Verset 3. « Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Cette femme ne s'est pas arrêtée d'aller voir ce juge unique. Le texte, la parabole ne nous dit pas, le Seigneur ne rentre pas dans les détails. Mais en tout cas, jusqu'à ce qu'elle ait gain de cause, elle n'a pas arrêté d'aller voir ce juge unique. On ne sait pas si ça a duré 2 jours, 1 semaine, 6 mois, 10 ans, on ne sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est que elle est allée voir ce juge unique jusqu'à ce que elle ait gain de cause. Quelle détermination exemplaire, non ? Des fois, vous et moi, dans notre vie de prière, on demande un sujet au Seigneur. Et puis après, on ne demande plus. Ah, mais le Seigneur, il le sait. Je lui ai déjà demandé 10 fois. Maintenant, je ne demande plus. Le Seigneur y voit. Il fait comme il le sent. Cette femme, jusqu'à ce que elle ait gain de cause. Le juge, il est écrit que ce juge, Ils ne craignaient pas Dieu. Ils ne croyaient pas en Dieu. Dans ces temps-là, il fallait, peut-être comme aujourd'hui encore d'ailleurs, il fallait pour quelqu'un qui s'adresse à des autorités, il fallait de l'argent. Il fallait de l'argent pour pouvoir engager des frais, engager des procédures. Visiblement, cette femme n'avait pas tout cet argent. Elle n'avait aucune force de finances particulière. C'est pas noté, mais on peut le penser pour appuyer sa négociation. La seule chose qu'elle avait, c'était sa persévérance. Pas question d'abandonner. Pas question de se relâcher. Pas question de se ramollir. Il me faut gain de cause. Fais-moi justice de ma partie adverse. Alléluia. Cette femme, malgré l'adversité, elle n'a pas baissé les bras. Vous avez vu que malgré la porte fermée, le texte nous dit, malgré qu'elle vienne, au premier abord, le juge refusa. La porte était fermée. Et pour autant, elle a persévéré. Elle n'a pas baissé les bras. Elle n'a pas laissé tomber. Gloire à Dieu pour ce principe spirituel important dans notre vie de prière. Seigneur, je ne veux pas baisser les bras. Vous savez que dans la Bible, la symbolique de lever les bras nous fait penser à la prière. Lever les bras nous montre que c'est un homme ou une femme qui prie. Quand Paul dira à Timothée, je t'encourage à élever devant Dieu des mains pures. C'est dans notre relation à Dieu, dans notre vie de prière, non ? Et quand, dans les temps anciens, quand le peuple de Dieu, avec Moïse, combattait Amalek, alors que Josué était dans la vallée, et que Moïse était sur la montagne et qu'il priait, qu'il avait les mains levées. Vous vous rappelez de cette séquence ? Qu'est-ce que le texte nous dit ? Et quand il avait les bras baissés, l'ennemi gagnait. Quand Moïse avait les bras levés, c'était le peuple de Dieu qui gagnait. Et puis le combat était si fort, si violent, il durait tellement longtemps, c'est que Moïse est fatigué des bras. Il n'en pouvait plus. Il avait les épaules qui lui brûlaient. Et il baissait les bras. Et dans la vallée, il y avait des morts. Des amis à lui étaient en train de mourir parce qu'il avait baissé les bras. Est-ce que nous comprenons que lorsque une église a baissé les bras, dans la vie de prière, lorsque un homme, une femme a baissé les bras pour sa vie de famille, pour ses enfants, pour son conjoint, lorsque on a baissé les bras, il y a la symbolique est forte. Hein ? Cette symbolique, nous la connaissons. Quand vous et moi, dans nos discussions, par rapport à une situation, nous disons « j'ai baissé les bras dans cette affaire ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut tout dire. Ça veut dire que j'ai laissé tomber, ça veut dire que je n'y crois plus, ça veut dire que je n'y arrive pas, ça veut dire que je renonce. Cette femme n'avait pas baissé les bras. Et je prie ce matin pour que si quelqu'un dans son domaine de vie, dans sa circonstance de vie, dans sa marche chrétienne a baissé les bras, je prie pour que par la grâce de Dieu, tu reprennes le chemin de la prière. Alléluia. Pour notre exemple de Moïse, comment est-ce qu'il a su lever les bras à nouveau ? Aaron et Hur sont venus se mettre à ses côtés pour l'aider. Qu'est-ce que ça nous montre ? Pour vous et pour moi, ça veut dire que notre vie de prière est soutenue par notre vie d'église, par la communion fraternelle. Alléluia ! On ne peut pas y arriver seul. Lorsque tu n'y arrives plus, lorsque tu ne sais plus, lorsque tu te sens bloqué, lorsque tu sens que dans la vallée de ta vie, il y a des morts qui sont là, que tu es en train de perdre le combat, dans ton cœur peut-être, ou dans ton quotidien, ne reste pas seul les bras baissés. Trouve quelqu'un de confiance, trouve quelqu'un dans l'église, reviens à l'église et dire j'ai besoin de toi, viens me soutenir, on passe un moment ensemble, on prie. L'ennemi va tout faire pour nous isoler. Mais l'Église est là pour nous encourager dans notre vie de prière. Alléluia. Donc, on ne regarde pas à la douleur de nos bras, qu'on n'arrive plus à les lever. On ne regarde pas aux circonstances difficiles, mais on regarde au Seigneur, en disant, Seigneur, Moi, je veux faire comme cette veuve. Je veux persévérer jusqu'à ce que tu me fasses gain de cause. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelle détermination exemplaire. J'aimerais partager un deuxième point avec vous. Et ce deuxième point, c'est l'image toujours de cette veuve, de cette mentalité qu'elle a manifestée à travers cette parabole. Que Jésus donne aux disciples, mais je crois que Jésus veut nous donner à nous aussi. Hein. Nous avons eu cette détermination exemplaire, mais maintenant j'aimerais qu'on voit comment cette femme a persévéré dans l'espérance. Persévérer dans l'espérance. Et on voit que ces deux mots, sont liés en fait dans la parole de Dieu. La persévérance et l'espérance sont deux mots qui sont liés. Il y a un principe spirituel très fort entre persévérer et espérer. Dites, si je reprends l'image que j'ai mis en lumière tout à l'heure, quand on a baissé les bras, ben ça veut dire qu'on a perdu l'espoir. Lorsque je ne persévère plus, c'est que je n'y crois plus. Il n'y a plus d'espoir. À quoi bon combattre? À quoi bon continuer? Tout est par terre, tout est fini. Quand on ne persévère plus, il y a de grandes chances que l'espoir nous ait été volé. On n'a plus d'espoir. Et là, l'ennemi, dans notre cœur, il a fait un grand pas. Il a fait un grand pas. L'espérance nous rend joyeux. Ouh. L'espérance nous rend joyeux. L'espérance nous rend zélés pour Dieu. L'espérance nous rend enthousiastes. Quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir. Et quand il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, mes amis, notre persévérance s'arrête. Quand on n'y croit plus, on ne prie plus. Quand on n'y croit plus, on ne prie plus. Nous arrêtons d'y croire. Comprenez. Les derniers mots de notre texte, Jésus dira, est-ce que je vais trouver des hommes et des femmes qui continuent de croire? Est-ce que je vais trouver la foi? Est-ce que nous comprenons ces mécanismes, mes amis? Quand il n'y a plus d'espoir, ma foi s'éteint. Ma foi s'éteint. Elle devient un souvenir. Elle s'inscrit dans le passé, mais plus dans le maintenant. Plus dans le maintenant de Dieu. Je n'y crois plus maintenant. Ça ne fait plus bouger mon cœur. Ça ne fait plus bouger ma vie. Je m'éteins. Et le Seigneur ne le veut pas. Le Seigneur ne le veut pas. Alors pourquoi cette femme a persévéré? Jusqu'à ce que, eh bien nous avons la réponse. Parce qu'à chaque fois qu'elle allait voir le juge unique, on ne sait pas si elle allait le voir tous les matins. On ne sait pas si elle allait le voir trois fois par jour, on ne sait pas. Mais à chaque fois qu'elle y allait, elle y allait avec espoir. Elle quittait son chez-elle jusqu'à la maison du juge ou à son bureau, j'en sais rien. Et à chaque fois, elle espérait. On connaît ce proverbe, hein? L'espoir fait vivre. Mais pourquoi? Pourquoi cette espérance fervente? Parce qu'elle savait une chose. Elle ne savait pas ce qui allait se passer. Mais elle savait une chose. Écoutez-moi bien. Elle savait qu'à chaque fois qu'elle allait voir ce juge inique, à chaque fois qu'elle allait taper à sa porte, elle savait qu'elle s'adressait à la bonne personne. Pour qu'elle ait gain de cause. Elle était sûre que s'il y avait quelqu'un qui pouvait la mettre au large, c'était lui. Elle savait que s'il y avait quelqu'un qui pouvait réellement régler son problème, c'était ce juge unique. Elle savait que ce juge était l'homme de la situation. Est-ce que nous comprenons cette parabole que Jésus dit à ses disciples? Il y a de l'espérance en nous, dans notre vie de prière. Parce qu'au-dedans de nous, il y a cette conviction que lorsque nous venons devant notre Dieu,
Au nom de Jésus, nous nous adressons à la bonne personne. Nous sommes sûrs que lorsque nous venons devant Dieu, au nom de Jésus, nous nous adressons à celui qui a toute autorité. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, nous nous adressons à celui qui a vécu la mort, qui est ressuscité, qui règne en gloire. Et ça produit en nous de l'espérance. Amen. Et c'est pour ça que malgré le temps qui passe, nous continuons à persévérer dans la prière. Parce qu'il y a au-dedans de nous cette espérance puissante. Et que Hébreu nous dit que c'est une encre sûre de l'âme. Elle vient s'accrocher, elle traverse le voile, les lieux très hauts, et elle s'accroche dans la présence de Dieu. Et ma vie, elle est accrochée à cette encre. Et quoi que soient les tempêtes de ma vie, quoi que ce soit que cette église ait pu traverser, je reste accroché, plein d'espérance, pas en traînant les pieds, pas en regardant en arrière, mais en regardant en celui qui a autorité pour me donner gain de cause et me faire justice. Amen.
Alléluia. Dites, est-ce que nous avons raison de faire confiance à notre Jésus? Est-ce que ce n'est pas celui qui a autorité? Toute autorité. Alléluia. Que l'espoir puisse renaître s'il y a besoin. Et ainsi notre vie de prière va être protégée et renouvelée. Gloire à Dieu. S'il y a quelqu'un qui peut faire bouger les choses et nous bénir, nous secourir, c'est notre Jésus. Ne nous lassons pas de venir à ses pieds jusqu'à ce que ton mari se convertisse, jusqu'à ce que tes enfants se convertissent, jusqu'à ce que tes problèmes soient réglés, jusqu'à ce que ta maladie soit brisée et que ta santé te soit redonnée, jusqu'à ce que, Seigneur. Amen. Rappelez-vous de 1 Corinthiens 13:13. Ce qui est mis en lumière avec cette parabole, Paul le dira dans les Épîtres. C'est un principe spirituel très important que nous mettons en lumière ce matin, me semble-t-il. 1 Corinthiens 13:13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Alléluia. La foi, l'espérance. Plus d'espoir, je n'y crois plus. C'est lié. C'est lié. Et ça, ce sont des choses qui demeurent. C'est des choses spirituelles qui sont durables. C'est des choses qui sont solides. C'est des choses avec lesquelles nous devons construire notre foi, notre marche chrétienne, notre communion avec notre Jésus. Alléluia. Romains chapitre 12, verset 12. Je vous laisse tourner les pages. Romains chapitre 12, verset 12. Nous voyons à travers cette simple phrase de l'apôtre Paul les connexions que nous venons de décrire ensemble. Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Quand je vous disais que l'espoir, ça se voit sur les visages. Alléluia. Ça se voit dans les yeux. Vous savez que nos yeux, ils parlent. Hein? Comme ça, on a les yeux qui sourient. Je ne sais pas comment on fait, mais en tout cas, les yeux, ils parlent. Réjouissez-vous en espérance, dira Romains 12, 12. Soyez patient dans les problèmes, soyez patient dans l'affliction. Vous lisez ça pareil que moi? Et dernière phrase, oh là là, c'est bien écrit ça? Persévérez dans la prière. Seigneur, donne-nous de persévérer dans l'espérance d'être sûr que nous sommes entendus par celui qui a autorité. Alléluia, alléluia. Allez, je termine avec ce troisième point. Ça va, c'est pas trop long? Votre pasteur m'a pas donné de timing, hein, vraiment. Hein. Il m'a dit, ta carte blanche. Après, je sens cesse, il m'a dit. Troisième point. On a vu le premier point, une détermination exemplaire. Le deuxième point, persévérer dans l'espérance. Et ce troisième point, Jésus promet de faire justice. Jésus promet de faire justice. Versets 6 et 7, regardez. On revient dans la parabole de Luc 18. Le Seigneur ajouta, Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Alléluia! Donc ici, Jésus encourage ses disciples, il nous encourage à placer notre foi, notre espoir en ce Dieu qui est notre juste juge. Notre Dieu est un Dieu juste. Un Dieu juste avec une justice exacte. Une justice juste également. Psaume 34, verset 7, ne cherchez pas, vous le connaissez par cœur. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Le verset 6 et 7, Jésus dira, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient jour et nuit? Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux et celles qui crient jour et nuit, qui entendent le cri de nos cœurs, Seigneur? Des fois, on n'arrive plus à mettre des mots tellement ça ne va pas. Mais le Seigneur, il entend le cri de nos cœurs. Alléluia. Et ça fait écho à ce psaume 34. Quand un malheureux crie, laisse-moi te dire que ton Dieu entend. Le Seigneur, il entend même le cri de nos larmes. Il recueille nos larmes. Elles lui sont précieuses, nos larmes. Tu n'es pas abandonné. Tu n'es pas isolé. Tes prières ne servent pas à rien. Elles sont recueillies. Cette parabole est ce qu'on n'appelle pas une parabole de comparaison, c'est une parabole de contraste. Le juge était inique. Il n'avait pas dans son cœur les principes de Dieu. Il n'avait pas l'amour pour son prochain. Ce juge, il regardait qu'à lui, qu'à son intérêt. Et Jésus, il pose cette parabole en disant, mais regardez, même quelqu'un qui est méchant, qui a un cœur dur, qui pense qu'à lui, est capable de faire gain de cause, à plus forte raison, notre Dieu qui est un Dieu rempli d'amour pour ses enfants, notre Dieu qui est un Dieu juste et compatissant, il va te dire, je te laisse tomber, je t'écoute pas, pas du tout. L'équité et la justice de Dieu sont à notre service, pour ceux qu'il aime, pour ceux et celles qui ont un cœur pour lui. Les promesses de la parole de Dieu sont entières et totales pour ceux qui sont rentrés dans l'alliance. Pour ceux qui lui appartiennent. On a pris le pain et le vin tout à l'heure. C'est quoi? C'est le rappel de la nouvelle alliance dans laquelle tu es rentré. Le Seigneur traitera ses enfants d'une manière toujours juste. De la justice de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin de manière nouvelle, que le Seigneur nous persuade qu'il veut nous secourir? Dites, ça vous l'a jamais fait dans votre prière? Quand vous demandez au Seigneur une intervention pour votre vie, que ce soit par exemple, on prend un exemple pour notre maladie du corps, d'accord? Quand tu dis, Seigneur, guéris-moi, est-ce qu'on n'a pas besoin d'être renouvelé dans le fait de croire que Dieu veut vraiment nous guérir? Est-ce qu'il n'y a pas, pendant que tu fais cette prière, une petite voix dans ta tête qui te dit, mais est-ce que, Seigneur, tu veux vraiment me guérir? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'être à nouveau visité par le Saint-Esprit et persuadé que notre Dieu est un Dieu juste pour nous, qui veut nous bénir? C'est le fondement de la doctrine chrétienne. Dieu veut te faire du bien. C'est la base. Parce qu'il nous aime. Est-ce que nous n'avons pas besoin d'être persuadés de croire que notre Dieu veut absolument faire quelque chose de nouveau dans nos cœurs et dans nos vies? Ou est-ce que nous sommes dans une fatalité qui nous amène dans une torpeur? C'est comme ça. Mais non. Mais non. Nous avons un Dieu juste qui nous aime et qui veut manifester ce qui est juste dans notre vie. Qu'est-ce que c'est qui est juste dans notre vie? Vous êtes assis? Qu'est-ce que c'est qui est juste dans notre vie? C'est que l'œuvre de Dieu dans nos cœurs continue à avancer. Ça, c'est la base. Ce qui est juste pour toi, c'est que tu continues d'être en feu pour ton Jésus. Ça, c'est juste.
la justice de Dieu pour ses enfants, c'est que les promesses de Dieu s'accomplissent. C'est ce qui est juste. C'est ce que Dieu veut. Amen. La justice de Dieu s'appuie sur quelque chose qui est stable, qui est durable, qui ne fluctue pas avec le temps. La justice de Dieu s'appuie sur les promesses de Dieu. Elles sont toujours oui et amen. Elles sont toujours oui et amen. Dans les temps que nous vivons, la parole de Dieu, elle n'est pas liée. Elle ne le sera jamais. Tout passera.
Mais sa parole, elle ne passera pas.
Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, alors persuade-nous de ton désir de nous secourir. Amen. Bon, alors, je pose une question quand même. Alors, je sais bien que les paraboles dans la parole de Dieu énoncent des points de doctrine, mais ne donnent jamais toute la doctrine. Votre pasteur pourrait vous faire une année ou deux de thématiques rien que sur la doctrine de la prière. Mais les paraboles sont données pour donner un angle. On ne peut pas tout dire dans une parabole. D'accord ? Vous me suivez ? Mais on est quand même obligé, en terminant ce matin, de poser une question. Même si le Seigneur veut nous persuader qu'il veut toujours nous secourir, on a besoin de se poser cette question. Pour autant, est-ce qu'il nous exauce toujours ? Et est-ce que pour autant, il nous exauce toujours instantanément ? Mais la question est non, parce que la thématique de cette parabole, c'est justement de persévérer. Donc si on avait tout de suite, on n'aurait pas besoin de persévérer. Quand nous relisons le verset 6 et le verset 7, il y a des mots qui viennent s'opposer entre eux. Et ça crée un paradoxe. Ça crée un truc qui peut amener de l'incompréhension. Et il faut qu'on mette en lumière cela pour comprendre le fond, en fait, de cette parabole. On relit. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, versets 7 et 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Donc, regardez dans cette même phrase que Jésus dit, en application de cette parabole, il tarde, mais en même temps, il répond promptement.
Non, mais attends, Seigneur. Tu réponds tout de suite ou tu tardes?
Les deux, monsieur le président.
Mais ça crée un paradoxe. Et si on ne comprend pas cela, on va être découragé dans notre vie de prière. Il doit y avoir cette espérance, cette joie de venir devant Dieu en disant « Seigneur, je crois que ici et maintenant, les choses peuvent bouger. Mais si ça ne bouge pas ici et maintenant, demain, je vais continuer à croire avec la même ferveur. » Et dans 10 ans aussi, Seigneur au secours, par ta grâce. Alors nous voyons que Dieu veut, ça y est, nous sommes persuadés maintenant. Hein ? J'en ai assez dit, je crois. Le Seigneur veut nous persuader, Dieu veut agir, mais, il y a un délai. Alors je pose encore une question. Pourquoi Dieu tarde-t-il ? Pourquoi Dieu tarde-t-il? Je vous fais une réponse. Je me permets. Parce que dans nos luttes et dans nos combats, il y a mieux que l'exaucement à nos prières. Dans ton besoin de miracle, il y a mieux pour toi que l'accomplissement de ce miracle. Dans ton besoin d'être guéri, il y a mieux pour toi que l'accomplissement de cette guérison. C'est quoi ce mieux ? C'est quoi ce mieux ? Eh bien ce mieux, c'est ce que produit notre vie de prière. Qu'est-ce que produit notre vie de prière ? Qu'est-ce que nous faisons quand nous prions ?
Nous venons dans la présence de Dieu. Nous cherchons sa face. Nous cherchons son cœur. Nous cherchons son conseil, nous cherchons sa présence, et dans sa présence, il y a son esprit qui nous renouvelle dans notre communion avec Dieu.
Dites, ça vous l'a jamais fait ? Quand il y a un problème grave qui vous tient, qu'est-ce que vous faites? Vous priez plus que vous n'avez peut-être jamais prié quand tout va bien. Et c'est à ce moment-là, quand vous avez besoin de cet exaucement, quand c'est quelque chose qui vous prend aux tripes, que vous dites « Seigneur, mais j'en ai tellement besoin, secours-moi comme cette veuve », c'est à ce moment-là que vous vivez les plus grandes bénédictions spirituelles de cœur à cœur et de communion avec votre Jésus. Vous avez vécu ça? Mais si Dieu vous avait tout donné tout de suite, qu'est-ce qui serait passé? Eh bien, vous n'aurez jamais vécu ce moment d'intimité. Non? Il y a plus que l'exaucement à tes prières. Il y a un appel à la communion, un appel à l'intimité, un appel au cœur à cœur par le Saint-Esprit dans ta vie de prière. Un appel à être tellement près du Seigneur que tu entends les battements de son cœur, que tu discernes son cœur, que tu es renouvelé envers et contre tout. C'est l'objet de cette parabole. C'est l'objet de cette parabole. Mes amis, Jésus veut nous secourir. Jésus ne veut pas que tu abandonnes la lutte. Jésus est à tes côtés, il supporte avec toi l'adversité. Il te donne la force pour la supporter. Jusqu'à ce que tu sois prêt, tu sois prête à écouter sa réponse. Jusqu'à ce que tu sois prêt, que tu sois prête à dire « Seigneur, mais même si tu m'exauces pas, ma satisfaction, mon plaisir, c'est d'être à tes pieds. Tu fais ce que tu veux de ma vie, Seigneur. Mais que tu me donnes ou que tu me donnes pas, je suis à toi pour toujours, envers et contre tout. » Et ça, mes amis, c'est le plus grand des miracles. Que quelle que soit l'adversité que je traverse, je garde un cœur fervent et bouillant pour mon Jésus, rempli d'espérance. Mes yeux sont fixés sur toi, Seigneur. Tu vas venir me chercher. Et ce qui m'attend là-haut, ça n'a rien à voir avec les problèmes que je vis ici. Ça vaut le coup de tenir bon. Alléluia. Mais pour tenir bon, mes amis, il y a un appel à la communion. Un appel au cœur à cœur. Un appel à reprendre ta vie de prière et à chercher Dieu. Non pas seulement pour tes besoins, mais à chercher Dieu. Pour qui est Dieu ? Et être renouvelé dans sa vie. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a un délai. C'est pour ça que Dieu se sert des délais pour tester ton cœur, pour mettre en lumière ta motivation, pour mettre en lumière ta persévérance. Est-ce que tes échecs passés ont eu raison de ta foi ? Est-ce que tes adversités passées ont eu raison de toi et pour que tu aies perdu l'espoir ? Redresse-toi ce matin. Au nom de Jésus, redresse-toi. Et reprends le chemin de la communion. Alléluia. Amen.